Bonjour et bienvenue dans cette série d'études bibliques audio sur le thème du divorce et du remariage. Nous allons voir ce thème en trois parties, sans doute même quatre. Première partie, les données bibliques du divorce dans l'Ancien Testament. Ensuite, le divorce dans l'enseignement de Jésus, puis dans celui de Paul. Enfin, il y aura sans doute un quatrième enregistrement sur le thème du remariage. Mais avant même de commencer, il nous a semblé bon donner une introduction sur le mariage. Quelques généralités forcément, parce que sinon il y aurait au moins autant, voire même bien plus encore, à dire sur le mariage que sur le divorce et le remariage. Au vu du nombre de données bibliques. Mais quand même, pour situer les choses, évidemment dans le cadre du mariage tel que la parole de Dieu le définit, quelques éléments d'introduction. Dieu a établi le mariage dès le début de l'histoire de l'humanité. Le mariage est défini dans des termes simples mais qui ont une portée importante. Dans Genèse 2, verset 24, on peut lire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et je fais tout de suite remarquer que dans les faits, dans la culture des patriarches et la culture juive, le mariage ne se pratique pas de cette façon. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est la femme qui quitte son père et sa mère, vient vivre dans la famille de son mari. Il y a donc dans la façon dont est formulée l'institution du mariage quelque chose qui dépasse l'ordre purement social ou culturel. Le mariage n'est pas une invention humaine, c'est un don de Dieu pour l'humanité. Le mariage entre dans le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le moyen que Dieu a choisi aussi pour que les êtres humains se multiplient et remplissent la terre. Le don du mariage relève de la grâce commune, il est institué pour l'humanité, pas seulement pour ceux qui croient, qui reconnaissent le Seigneur. Le mariage concerne les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Le mariage ne concerne pas, par exemple, les animaux. Et le mariage concerne les êtres humains créés à l'image de Dieu dans la création telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans le monde à venir, la nouvelle création, le mariage n'aura plus de raison d'être, nous dit Jésus. Dans l'économie présente, le mariage est une union solennelle, une alliance. Ça, c'est le prophète Malachi qui nous permet d'affirmer cela. Il est question de la femme de ton alliance, parce que Dieu s'adresse à un homme dans ce texte, la femme de ton alliance. Dans le projet de Dieu, cette alliance est pour la durée de la vie, dans la fidélité conjugale. La relation sexuelle, la relation conjugale est exclusive d'après les termes de l'institution du mariage. Je vous fais remarquer ici l'usage du singulier. L'homme s'attachera à sa femme. Même si la polygamie a été tolérée par Dieu et même réglementée dans la loi de Moïse. Nous voyons dans cette même loi la possibilité du divorce, que cette loi tient compte de cette possibilité, bien que le divorce ne soit pas dans l'intention de Dieu. Jésus dira que c'est à cause de la dureté de notre cœur que des divorces ont lieu. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un mari trompé par son peuple, un peuple qui s'est livré à la prostitution avec des dieux étrangers. Mais à chaque fois dans sa miséricorde, Dieu pardonne. Et c'est sans doute dans le livre du prophète Osée que ce message est le plus poignant. Vous savez, Osée qui doit prendre pour femme une prostituée, et puis après encore une fois, etc. Peut-être, probablement, il s'agit là d'un mime prophétique, mais le message, en tout cas, est extrêmement poignant. D'autres textes vont dans le même sens, également Ésaïe 54, verset 6, par exemple. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mariage dans la Bible. Mais ce n'est pas là notre sujet principal. Dans la suite de cette étude, nous allons surtout étudier ce que la Bible dit du divorce, comme je le disais déjà il y a quelques instants, et ce que on peut en déduire concernant le remariage. Voici deux questions clés lorsqu'on étudie ce thème. Première question, est-ce que le divorce dissout vraiment le lien du mariage aux yeux de Dieu? Et deuxième question, dans quel cas, et là je précise que cette deuxième question est bien distincte de la première, dans quel cas le divorce est légitime et par conséquent n'est pas un péché? C'est en étudiant les données bibliques sur ce sujet que nous pourrons arriver à entrevoir la réponse à ces questions. Et c'est ce que nous allons faire dans cette étude à trois voies. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la question du divorce et ce qu'en dit la Bible. Et ensuite, à partir de ces données, nous aborderons plus brièvement la question du remariage. On ne va pas développer davantage la théologie du mariage. On ne parlera pas non plus des fiançailles, ni de la cohabitation hors mariage. Nous n'aborderons pas non plus la question du célibat. Après cette introduction, c'est à moi de commencer avec la notion du divorce dans l'Ancien Testament. Et plus tard, ce sera donc Étienne qui apportera la notion de divorce dans l'enseignement de Jésus et Jean-Marc dans l'enseignement de Paul. Attaquons maintenant l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, certains textes nous permettent de comprendre que le divorce faisait partie de la vie du peuple de Dieu, tout comme il faisait partie de la réalité de tous les peuples sémitiques du Proche-Orient ancien. Il n'y a à cet égard pas de différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Le mariage faisait malheureusement partie de la triste réalité de la vie du peuple de Dieu. Les autres peuples autour de cet endroit-là, proche de la Palestine, et jusqu'en Mésopotamie, connaissaient également la pratique du divorce, pratique qui était légiférée dans différents codes. Je ne suis pas allé voir dans tous les codes de loi du Proche-Orient ancien, mais le plus fameux d'entre eux est sans doute le code d'Hammurabi, qui consacre une vingtaine d'articles à peu près sur le mariage et le divorce, une vingtaine d'articles sur 280 articles. Le code d'Hammurabi qui a été écrit donc à l'époque des patriarches, à l'époque d'Abraham, à peu de choses près, c'est-à-dire 400-500 ans avant la loi de Moïse. Je suis également allé voir dans les lois assyriennes, des lois qui ont été écrites à l'époque du roi assyrien Tiglath-Pileser Ier. Ce n'est pas le Tiglath-Pileser de la Bible. Tiglath-Pileser de la Bible, aussi appelé Poule dans certains passages, c'est Tiglath-Pileser III. Et je vous propose, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine, de lire quelques extraits de ces textes pour nous plonger dans cette culture un petit peu éloignée de la nôtre, quand même, il faut le reconnaître. Cette culture dans laquelle a été écrite la loi de Moïse. Et je vous propose de commencer par lire quelques articles dans le Code d'Hammurabi, donc qui précède de 5 siècles environ la loi de Moïse, et ensuite quelques paragraphes des lois assyriennes, ces lois assyriennes que nous avons retrouvées sur 3 tablettes et qui datent de l'époque des juges, donc après la loi de Moïse. Alors, quelques extraits maintenant choisis du Code d'Hammurabi. Et les extraits que je lirai se suivront à peu près. De temps en temps, j'ai sauté quelques articles. Donc, article 130, paragraphe plutôt 130, devrais-je dire, du Code d'Hammurabi. Si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mal, M-A accent circonflexe L-E, et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée. Voilà un premier article qui nous parle donc non pas ni d'un mariage d'ailleurs, ni d'un divorce, mais d'une faute qu'un homme peut commettre, un viol sur une femme qui est encore dans la maison de son père. Cet homme sera passible de mort si on le surprend. Paragraphe 131, si le mari d'une femme l'a incriminée et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu et elle retournera à sa maison. Donc là, on voit dans cette loi que le mari pouvait soupçonner sa femme d'adultère, de relation adultérine, mais s'il ne peut pas le prouver et que la femme jure qu'elle ne l'a pas fait, elle ne sera pas inquiétée, pourra retourner dans sa maison. Paragraphe 133. Si un homme a été fait captif et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si la femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison, parce que cette femme n'a pas gardé son corps et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître et on la jettera dans l'eau. Donc là, c'était le cas d'un homme qui est fait captif, donc qui est capturé, donc ne peut pas être chez lui. Si la femme a de quoi manger dans sa maison, alors elle n'a pas le droit de contracter un nouveau mariage. L'expression « entrer dans une autre maison », c'est se marier. Sortir de la maison de son époux, ça veut dire divorcer. Et là, dans ce cas-là, la femme sera punie de mort. Paragraphe 135. Si un homme a été fait captif et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père respectif. Donc là, on a la même situation d'un homme qui est fait captif, mais dans sa maison, il n'y a pas de quoi manger, donc la femme ne pouvait pas y rester. Donc elle va dans une autre maison, elle a même des enfants avec donc ce nouveau mari. Si ensuite son mari revient, alors son ex-femme doit retourner avec son époux revenu et les fils, par contre, resteront avec leur père respectif. Paragraphe 136. Si un homme a abandonné sa ville, ça c'est important, si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si après lui sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari. Donc attention, si un homme abandonne sa ville, sa femme peut se remarier avec un autre homme, et cet homme ne pourra pas récupérer sa femme lorsqu'il reviendra, parce que c'est lui qui a abandonné sa ville, il n'a pas été fait captif. Paragraphe 137. Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants, ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa chériktou, donc ça c'est la dot ou une partie de la dot, et on lui donnera l'usufruit des champs, vergers et autres biens, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfants de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix. Donc voilà l'obligation d'un homme, s'il répudie une concubine ou une épouse qui lui a procuré des enfants, il doit rendre à cette femme la dot et même lui donner l'usufruit de certains biens pour qu'elle puisse élever ses enfants. Et après, elle aura une part aussi d'héritage qui, je pense, est assez réduite. Il s'agit d'une part d'enfants de tout ce qui sera donné aux enfants. Donc peut-être un pourcentage d'un pourcentage, on peut imaginer les choses comme ça. Paragraphe 138. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfant, il lui donnera tout l'argent de sa tiratou. Ça c'est peut-être les biens propres de la femme. Certaines femmes avaient des biens propres, mais en réalité ils profitaient au mari et pas à la femme. et il lui restituera intégralement la chériktou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera. Donc voilà un motif de répudiation possible d'après le code d'Amourabi si une épouse ne donne pas d'enfant. Il suffit de lui rendre ses biens ainsi que la dot, et il peut répudier ainsi sa femme. Paragraphe 141. Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme était disposée à sortir, à provoquer la division, à dilapider sa maison, négliger son mari, on la fera comparaître, et si son mari dit « je la répudie », il la laissera aller son chemin et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit « je ne la répudie pas », son mari peut épouser une autre femme et cette première femme demeurera dans la maison de son mari comme esclave. Donc voilà le cas là d'une femme qui provoque la division dans son couple pour sans doute quitter son mari. Elle dilapide sa maison, c'est-à-dire les biens, elle néglige son mari. Alors, dans ce cas-là, le mari peut la répudier sans lui donner le moindre argent. Si par contre le mari ne souhaite pas la répudier, alors il est libre d'épouser une autre femme et de garder son ex-femme comme esclave. Paragraphe 142. Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit « tu ne me posséderas pas », son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné. Et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute. Elle peut prendre sa chériktou et s'en aller dans la maison de son père. Voilà un droit qui protège la femme. Il est question d'un examen, elle doit subir un examen, et si on s'aperçoit que sa femme est sans reproche, elle est ménagère, c'est-à-dire qu'elle est à la maison et qu'elle s'occupe des biens de son mari, alors que lui, son mari, la néglige, alors cette femme est déclarée sans faute, elle peut récupérer sa dot et retourner chez son père. Paragraphe 143. C'est la même situation, mais un autre cas. Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau. Paragraphe 148. Si un homme a pris une épouse, et si cette épouse tombe malade, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse atteinte par la maladie. Elle demeurera à domicile et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera. Voilà encore une loi qui protège la femme qui tomberait malade. Elle n'a pas le droit d'être répudiée. Elle doit demeurer dans la maison de son mari et être nourrie. Enfin, dernier paragraphe, le 149. S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, c'est donc un sous-cas de ce que nous venons de lire, il lui restituera la chériktou, donc la dot qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira. Nous allons pouvoir lire à présent encore quelques extraits d'un autre code de loi, cette fois-ci au temps des juges, donc des lois assyriennes qu'on a retrouvées sur trois tablettes, la tablette A, tablette B et tablette C, la tablette A étant la plus grande, et c'est dans celle-ci qu'est abordé notamment le statut de la femme à travers tout ce qui légifère les unions, donc les mariages et les divorces. Paragraphe 35. Si quelqu'un épouse une veuve, sans fixer ses obligations, si 2 ans dans sa maison de lui elle demeure, cette femme ne s'en ira plus. Voilà. Paragraphe 37. Alors là, il faut un petit peu s'accrocher. Vous allez voir, il y a pas mal de sous-cas. Ça va être un petit peu long. Si une femme est mariée chez son père et si son mari, dans une maison isolée, la fait demeurer, et si son mari part au champ, sans que huile, laine, vêtements, nourriture et rien ne lui ait laissé, ni rien du produit des champs ne lui envoie, hein, le mari, cette femme, pendant 5 ans à son mari, sera fidèle et ne se remariera pas. Si elle a des fils qui se louent et mangent du pain, cette femme attendra son mari et ne se remariera pas. Si elle n'a pas de fils, elle attendra son mari pendant 5 ans. Au seuil de 6 ans, elle demeurera avec le mari de son choix. Son premier mari, au retour, ne la touchera pas. Elle est garantie à son dernier mari. Si au-delà de 5 années, il a tardé parce que librement il n'a pas pu se rapprocher, soit qu'un despote l'ait pris et qu'il se soit enfui, soit que comme rebelle il ait été pris et ainsi étardé, il en justifiera au retour. Une remplaçante de sa femme il procurera au nouveau mari et il reprendra sa femme. Et si le roi en pays étranger l'a envoyée et s'il tarde jusqu'à 5 années, sa femme l'attendra. Près d'un autre mari, elle ne demeurera pas. Mais si avant les 5 ans révolus, elle se remarie et a des enfants, le premier mari, au retour, parce que selon la loi, elle n'a pas attendu et s'est éloignée, elle et ses enfants, il prendra. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit dans cette loi? C'est particulièrement intéressant de voir cette règle des 5 années. Si un mari s'en va pendant 5 ans et ne laisse pas de moyens de subsistance à son épouse, alors, dès le début de la 6e année, elle a le droit de se remarier. Voilà, pendant 5 ans, néanmoins, elle devait être là, à éventuellement attendre un retour de son mari, etc. Donc on voit que le statut de la femme est quand même extrêmement fragile et que 5 ans, ça peut quand même être très très long. Voilà, on pourrait appeler ça quelque part un espèce d'abandon de domicile qui dure 5 ans et pendant 5 ans, la femme n'a pas le droit d'aller, de se remarier, de refaire sa vie. Ces 5 années, si au bout de 5 années le mari donc n'est pas revenu, elle peut partir. Mais si il revient et qu'il peut justifier qu'il n'était pas là pendant 5 ans et que ce n'était pas de son propre gré, parce qu'il avait par exemple été capturé, il a le droit à ce moment-là de reprendre sa femme, mais il doit au nouveau mari de sa femme lui fournir une autre épouse. Voilà un petit peu comment les choses étaient réglementées chez les Assyriens. Paragraphe 38. Si un homme répudie sa femme, s'il lui plaît, il lui donnera quelque chose. S'il ne lui plaît pas, rien, il ne lui donnera. Elle sortira avec le vide. Donc là, c'est assez terrible. On a le cas d'un homme qui répudie sa femme et qui ne lui donne rien. Ou qui lui donne quelque chose, si ça lui plaît. Paragraphe 39. Si une femme demeure, c'est-à-dire est mariée chez son père, et si son mari la répudie, le doumaki qu'il lui avait fixé, il le reprendra. À la tirite qu'il a apportée, il ne touchera pas. Cela est garanti à la femme. Voilà quelques règles qui gère aussi les finances hein, en cas de répudiation, de divorce. Et enfin, paragraphe 55, donc c'est un petit peu plus loin sur la tablette. Si un homme a pris par contrainte et a violé une jeune fille qui habite dans la maison de son père, qui n'a pas été demandée, qui n'est pas déflorée, qui n'est pas mariée, et pour laquelle aucune réclamation n'a été présentée à la maison de son père, l'homme ayant agi soit dans la ville, soit dans la campagne, ou de nuit dans la rue, ou dans un grenier, ou durant les fêtes de la ville, le père de la jeune fille prendra l'épouse du fornicateur de la jeune fille et la livrera au stupre, c'est-à-dire à la débauche. Il ne la rendra pas à son mari, il la prendra. Le père donnera comme épouse sa fille souillée à son fornicateur. S'il n'a pas d'épouse, le fornicateur payera le tiers du prix de la jeune fille à son père, et son fornicateur l'épousera, il ne la renverra pas. Si le père ne veut pas de ce mariage, il recevra en argent le tiers du prix de la jeune fille et donnera sa fille à qui il voudra. Voilà là encore une loi assez terrible, hein, où on voit que la femme ou la jeune fille hein, dont il est question dans ce texte est un objet qui a une valeur et voilà. On ne va pas rentrer dans le détail de l'analyse de cette loi. On rentrera par contre dans le détail d'un texte de l'Ancien Testament. Mais alors pourquoi avoir lu tout cela? C'est parce que je suis persuadé qu'à la lecture de ces textes, nous avons voyagé. Voyagé dans le temps, que ce voyage nous permet de mieux comprendre la loi de Moïse et ses spécificités par rapport aux autres codes de loi. C'est peut-être qu'à la lecture, comme ça, c'était vraiment compliqué à suivre, mais voilà, ça nous donne une atmosphère au moins générale. Si vous êtes intéressé, bien sûr, par ces articles que je vous ai lus, ils sont à votre disposition. Sachez aussi que si vous tapez tout simplement « Code d'Amourabi » sur Google, hein, sur Internet, vous pouvez le trouver en français. Si vous ne le trouvez pas, demandez-moi, je vous enverrai un lien. À cette époque, il y a plus de 3000 ans tout de même, les femmes, on le voit bien dans ces lois, étaient considérées comme bien inférieures aux hommes. Les femmes n'avaient presque pas de valeur et le mari avait presque tous les droits sur elles. Il pouvait les répudier relativement facilement. D'ailleurs, même en hébreu, hein, le mot pour dire « mari » peut se traduire par « maître » et même « propriétaire ». Alors, pour assurer un minimum de protection aux femmes, les codes de loi donnent quelques règles et certaines des règles que nous avons lues protègent la femme. Alors attention, protège un tout petit peu les femmes. Nous retrouverons cela aussi dans la loi de Moïse, mais avec des spécificités propres à la Bible. Il y a énormément de règles dans la Bible concernant le culte et les prêtres notamment, ce que nous ne trouvons pas dans ces codes de loi d'autres peuples, et surtout la notion de moralité de Dieu. Pas seulement de sagesse du roi. Alors c'est vrai que pour le code d'Amourabi, dans le prologue du code d'Amourabi, donc Amourabi, le roi, dit qu'il reçoit cette sagesse du dieu soleil, hein, le Shemesh, du dieu donc soleil. Mais enfin, c'est quand même sa sagesse. Il l'a certes reçue, mais c'est quand même lui, le législateur. Et il n'y a pas tellement, tant que ça, cette notion de moralité de Dieu, mais plus d'une sagesse qu'il faut respecter. Ça, ce sont vraiment peut-être les deux spécificités de la loi de Moïse. Hein. À la fois, tout un arsenal de lois qui réglementent le culte et qui concernent aussi un certain nombre d'entre elles concernent les prêtres et la notion de loi vis-à-vis de Dieu lui-même. La loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, légifère sur un certain nombre de situations qui pourraient arriver, et certaines d'entre elles mentionnent le divorce. Et elles mentionnent le divorce, j'ai envie de dire, plutôt en passant, sauf à une exception près, qu'on détaillera tout à l'heure. Mais par exemple, il y a cette loi dans Lévitique 21, verset 14, qui précise que les prêtres ne devaient pas épouser des femmes divorcées. Vous voyez bien que le texte ne dit pas grand-chose du divorce, il mentionne la présence de femmes divorcées, en tout cas la possibilité qu'il y ait des femmes divorcées, que les prêtres ne devaient pas prendre pour épouse. Cela est repris d'ailleurs dans la vision à la fin du livre d'Ézéchiel, en Ézéchiel 44, 22, cette loi est encore répétée. Si les prêtres ne devaient pas épouser des femmes divorcées, on peut supposer que le remariage des femmes divorcées était autorisé, au moins dans certains cas, avec des hommes qui n'étaient pas des prêtres. Ce texte ne nous dit rien à propos du divorce et des raisons même du divorce de ces femmes. Le divorce est simplement présenté comme une réalité qui existe en Israël et la loi de Dieu pour son peuple en tient compte. Autre loi que nous pouvons trouver en Lévitique 22, versets 12 et 13, il s'agit de la fille d'un prêtre marié à un étranger, et il est précisé qu'elle ne pourra pas manger de la nourriture de son père, tandis qu'une fille d'un prêtre qui est divorcée, pas le prêtre, mais la fille, hein, une fille divorcée d'un prêtre et qui n'a pas d'enfant, pourra manger de la nourriture de son père. Elle, quelque sorte, elle retournait sous l'aile de son père après son divorce. Rien n'est dit dans le cas où une fille d'un prêtre était divorcée avec des enfants, mais on peut supposer que les enfants, dans ce cas-là, devaient subvenir à ses besoins, et plus spécialement le fils aîné, en général, qui avait ce rôle. Le vœu, ensuite en Nombre 30, versets 9 et 10, le vœu d'une femme mariée pouvait être annulé par son mari, mais le vœu que fait une femme divorcée sera toujours valable. Cette loi nous permet de déduire une chose importante sur le divorce, c'est que l'ex-mari, à partir du moment où un couple est divorcé, l'ex-mari n'a plus de droit vis-à-vis de son ex-femme. Le vœu de la femme divorcée n'engage qu'elle, l'ex-mari n'est plus concerné. Le divorce est pris au sérieux, il dissout le lien qui unissait les époux et annule tout droit de l'ex-mari sur son ex-femme. Et enfin, deux autres cas, dans Deutéronome 22-19 et Deutéronome 22-29, où il est précisé que le divorce est interdit. C'est dans le cas où un homme accuse faussement son épouse de ne pas avoir été vierge avant le mariage, il sera puni et ne pourra pas divorcer. Donc là, on a le cas d'une fausse accusation, et cela entraîne que le divorce lui devient interdit. C'était pour éviter d'accuser faussement son épouse, son épouse à la légère. S'il s'avérait que c'était faux, alors l'homme en question ne pourrait pas divorcer. Deutéronome 22, 19. Et un autre cas où il ne peut pas y avoir de divorce, si un homme couche avec une femme vierge non fiancée, il devra la prendre pour femme et aura l'interdiction de divorcer. Donc dans cette loi que je viens de lire à l'instant et la précédente, le fait de préciser que le divorce est interdit, mais c'est uniquement dans ces deux cas bien précis, implique que le divorce est permis dans d'autres cas. Et cela, beaucoup de commentateurs le soulignent, notamment un certain Driver, qui a écrit un bon commentaire en anglais sur le Deutéronome. Le divorce n'est pas seulement mentionné dans les textes de la loi. Les prophètes, Ésaïe, Jérémie et Malachie, notamment, le mentionnent comme étant une réalité bien présente dans la vie du peuple. Ésaïe 50, verset 1, Jérémie 3, verset 1, Malachie 2, verset 14. Si nous regardons de plus près un de ces textes, Jérémie 3, donc verset 1 et suivant, hein, jusqu'au verset 20, il faudrait lire, on ne va pas prendre le temps maintenant, mais je pourrais résumer qu'en raison de l'idolâtrie du peuple, qui est comparée à une prostitution, à un adultère, à une trahison, Dieu présente sa relation avec le peuple comme une procédure de divorce. Hein, il est même question de la lettre de divorce que Dieu est sur le point d'écrire, ou même a écrite. Jérémie 3, verset 1, Jérémie 3, verset 8. Dieu lui-même se présente comme étant symboliquement en procédure de divorce avec son peuple. Alors on ne peut pas dire que le divorce n'existe pas aux yeux de Dieu. Il y a même un cas précis, très difficile à comprendre, sur lequel je ne vais pas m'attarder non plus, où Dieu a ordonné le divorce. C'est par l'intermédiaire d'Esdras, c'est à la fin du livre d'Esdras, le renvoi de toutes les femmes étrangères. Esdras, chapitre 10. dans tous les textes bibliques, en tout cas de l'Ancien Testament, qui mentionnent le divorce, on peut définir le divorce comme la rupture de l'alliance du mariage. Si on définit le divorce de cette façon, on n'est contredit par aucun texte de l'Ancien Testament. Dans tous les cas, le divorce implique aussi, sur le plan pratique, la séparation des époux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, la femme répudiée se remariait, car c'est de cette façon qu'elle pouvait assurer sa subsistance. Mis à part quelques exceptions, où peut-être certaines femmes avaient un héritage qui leur était laissé de leur famille, de leur père, de leur mère, et qui leur appartenait en propre, à part quelques rares cas où ces biens propres pouvaient suffire à vivre, là, dans la plupart des cas, une femme qui était répudiée se retrouvait sans aucun moyen de vivre. Pour elle, une des seules façons de tout simplement pouvoir continuer à se nourrir, à pourvoir à ses propres besoins, était de retrouver un mari. Ceci dit, le divorce n'est pas considéré comme étant quelque chose de légitime dans tous les cas, pour n'importe quel motif, comme cela est dit dans le Nouveau Testament. Et justement, il y a un texte que nous n'avons pas encore mentionné et qui a fait couler beaucoup d'encre à ce sujet, c'est celui de Deutéronome 24, versets 1 à 4, que nous allons lire dans le détail. Et je vous en fais maintenant la lecture dans la Bible Second 21. Deutéronome 24, donc versets 1 à 4. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qu'il a prise pour femme vienne à mourir. Alors, le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a ainsi été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. C'est le texte, voici dans ces quatre versets, le texte qui nous en dit le plus à propos du divorce et la façon dont il est pratiqué chez les Hébreux. Tout d'abord, il convient de regarder la structure de ce passage et ne pas commettre une erreur. L'erreur, favorisée par certaines traductions comme la version de la Colombe, par exemple, consiste à lire le verset 1 en pensant qu'il s'agit d'une phrase complète. Donc le verset 1 était « Lorsqu'un homme a pris épouser une femme qui viendrait ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. » Si on s'arrête là et qu'on ne lit pas les trois versets d'après, on va être induit en erreur. Il ne s'agit pas là d'une phrase complète. Il faut lire l'ensemble des quatre versets qui forment une seule loi. D'ailleurs, si on lisait ce premier verset pour lui tout seul, cela nous conduirait à conclure que le divorce est conseillé ou obligatoire quand quelque chose d'inconvenant a été découvert. Étonnamment, c'est comme cela que le texte a été compris dans la Mishnah, la loi juive orale. Il est probable à la façon dont ce texte est cité par les pharisiens qui interrogent Jésus pour le piéger, que ce texte n'était pas correctement interprété à l'époque de Jésus non plus. Les pharisiens d'ailleurs qui veulent interroger Jésus pour le piéger veulent que Jésus se positionne dans leur camp. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Ils attendaient, ces pharisiens attendaient de Jésus que Jésus leur dise non. Et ainsi, ils pouvaient rallier Jésus à leur position. Mais Jésus ne tombe pas dans ce piège et il dit plus de choses encore que ce qu'en attendaient les pharisiens. Mais ça, je laisserai Étienne nous raconter tout ça. Deutéronome 24, versets 1 à 4, est une loi, une seule loi en quatre versets, de type casuistique, c'est-à-dire qu'on examine un cas. Toutes les lois de type casuistique se composent d'une protase, c'est la première partie de la loi, c'est l'exposition d'une situation, d'un cas, qui est souvent formulé de façon conditionnelle. Si un homme fait ceci ou cela, etc. Donc, toutes les lois de type casuistique sont composées d'une protase et d'une apodose. Et l'apodose, c'est quoi? C'est finalement ce que la loi commande dans le cas exposé, dans le cas qui est exposé dans la protase, et l'apodose est souvent formulée comme une conséquence. Alors il devra payer telle ou telle somme d'argent, etc. De nombreuses lois sont formulées de la sorte dans le Pentateuque. En observant bien Deutéronome 24, versets 1 à 4, on s'aperçoit que la protase comprend les trois premiers versets qui forment une proposition conditionnelle. L'apodose n'est amenée qu'au début du verset 4. Tout à l'heure, je vous ai lu d'autres codes de loi et vous avez pu constater que la protase peut être très longue dans certains cas. Et l'article 37 des lois assyriennes, c'était le cas, hein, où il y avait un cas qui était exposé de façon assez longue, avec beaucoup de conditions, puis ensuite il y avait une apodose, et puis après il revenait en rajoutant des sous-cas possibles et des sous-apodoses, du coup, qui en découlaient. Ce que la loi de Deutéronome 24 dit en résumé, c'est que si un homme répudie sa femme, et qu'elle se remarie, cet homme ne peut en aucun cas la reprendre pour femme, même si elle divorce d'avec son deuxième mari ou qu'elle devient veuve. Voilà ce que nous dit cette loi. Cela nous montre qu'il n'y a plus de lien entre une femme divorcée et son ex-mari, plus de droit de l'ex-mari sur elle. Le propos de cette loi n'est donc pas de dire dans quel cas un divorce serait légitime ou non, il s'agit seulement de l'interdiction d'une nouvelle union avec la femme répudiée lorsque celle-ci s'est remariée après le divorce, même si le second mari l'a répudiée à son tour, ou s'il est mort. Cette loi nous permet néanmoins de déduire un certain nombre de choses sur le divorce en lui-même. Tout d'abord, le divorce n'était pas un acte anodin. La rédaction d'une lettre de répudiation était un acte officiel qui annulait le mariage et les obligations des époux l'un envers l'autre. Écrire une telle lettre ne se faisait pas à la légère, car les effets étaient irréversibles. Le mari qui répudiait sa femme ne pourrait plus la reprendre si cette dernière se remariait, ce qui était fort probable, comme nous l'avons dit tout à l'heure. De plus, il devait sans doute rembourser la dot, bien que cela ne soit pas précisé dans la Bible. On a une loi qui concerne la dot, mais pas dans le cas là, d'un divorce. Par la lettre de divorce, la femme répudiée était protégée et dégagée de tout devoir vis-à-vis de son ex-mari. Alors nous n'avons pas d'exemple de lettre de divorce dans la Bible, sauf peut-être une version très minimale en Osée, chapitre 2, verset 4, hein, qui consiste à dire « Elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. » Mais on a des modèles de lettres plus récentes. Cela prouve que c'était effectivement pratiqué de cette façon dans le judaïsme. Dans l'Encyclopédia Judaïca, nous trouvons une lettre comme celle que je vous lis maintenant. Alors c'est bien plus récent que l'époque de l'Ancien Testament. Le jour de la semaine du mois 2 de l'année, depuis le commencement du monde, d'après l'estimation communément acceptée de la province 2, moi, fils 2, quel que soit le nom par lequel je suis connu de la ville 2, en pleine possession de mes esprits, sans aucune contrainte, t'ai divorcé, renvoyer et expulser, toi, fille de, quel que soit le nom par lequel tu es connue, de la ville de, qui a été ma femme jusqu'ici. Mais maintenant je t'ai renvoyé, fille de, quel que soit le nom par lequel tu es connue de la ville de, afin que tu sois libre d'épouser qui te plaira, sans que personne ne puisse te faire d'obstacle, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Que ceci soit ta lettre de divorce de ma part, un document écrit de séparation et d'expulsion, conformément à la loi de Moïse et d'Israël. Et ce document était signé par deux témoins. Nous pouvons encore déduire une autre chose de cette loi en examinant de plus près une expression qui est donnée en Deutéronome 24, verset 1. Il s'agit de la chose inconvenante ou la chose honteuse. Que signifie cette expression qui est présentée comme une cause possible, pas forcément légitime, mais néanmoins possible, de divorce? La chose inconvenante traduit l'hébreu ervat dabar, littéralement la nudité d'une chose. Alors, s'agit-il de l'adultère ou d'une autre forme d'inconduite sexuelle? Ou bien de quelque chose de répugnant qui pourrait faire honte au conjoint et qui expliquerait que le conjoint veuille se séparer de sa moitié? On sait que deux écoles juives se disputaient à ce propos. Pour les disciples de Shammai, il s'agissait clairement d'une infidélité conjugale, tandis que pour Hillel, il pouvait s'agir d'une faute beaucoup moins grave, d'un plat brûlé par exemple. Il justifie cela d'ailleurs en disant « tout est impureté, donc une femme qui ne cuisine pas bien, brûle le repas, peut être un motif de divorce. » Selon Rabbi Akiba, un homme pouvait divorcer s'il trouvait une autre femme plus belle que la sienne. Certains ont avancé que la chose inconvenante pouvait être la stérilité. Une des lois non bibliques que je vous ai lues tout à l'heure énonçait clairement ce cas de figure. Il faut bien se rappeler que dans le Proche-Orient ancien, les femmes n'avaient presque aucun droit. Dans la civilisation hittite, par exemple, un homme pouvait vendre sa femme pour 12 pièces d'argent. Aujourd'hui encore, dans certaines tribus d'Afrique, un père de famille peut donner sa fille en mariage en échange d'animaux, dans le Maghreb en échange de 4 ou 5 dromadaires. Peut-être moins aujourd'hui, mais il y a quelques dizaines d'années, c'était des pratiques qui étaient encore courantes. Qu'est-ce que la chose inconvenante de Deutéronome 24, verset 1? Alors, beaucoup de choses ont été avancées et je vous mentionne ce que le commentateur Lightfoot en dit. Il considère, lui, Lightfoot, qu'il s'agit de l'adultère. Cette loi de Deutéronome 24 viendrait donc adoucir les lois de Deutéronome 22 qui, en cas d'adultère, prescrivent la peine de mort par lapidation. Cette loi permettrait une autre issue que la peine de mort en cas d'adultère. C'est une interprétation originale et respectable, mais elle est très minoritaire parmi les commentateurs. La grande majorité des exégètes estime que la chose inconvenante ne peut justement pas être l'adultère, puisque la loi de Moïse légifère ailleurs sur l'adultère ou le soupçon d'adultère. Donc Deutéronome 22, versets 13 à 29, Nombre 5, versets 11 à 31. Je pense, avec la grande majorité des commentateurs, que la chose inconvenante dont il est question ici ne désigne pas l'adultère. La femme répudiée par une lettre de divorce, lettre qui lui était remise, était ainsi protégée d'une accusation d'adultère, puisque dans cette lettre figurait justement peut-être même le motif du divorce, et ce n'était pas l'adultère. La femme était ainsi protégée dans sa réputation. La seule autre mention de cette expression « ervat dabar » dans l'Ancien Testament est en Deutéronome 23, verset 15, juste quelques versets avant. mais cette référence ne nous informe pas davantage sur le sens précis de cette expression. Il est question de la façon de faire ses besoins en dehors du camp, dans un trou creusé avec un outil qui servira aussi à recouvrir les excréments. Celui qui ne procédait pas ainsi faisait une chose inconvenante, faisait une nudité de chose, ou dans d'autres traductions, quelque chose d'impur. Ceci dit, le mot « nudité » revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour parler d'une exhibition honteuse du corps. On trouve ça dans Genèse 9, versets 22-23, Exode 20, verset 26, Lamentations 1, verset 8, Ézéchiel 16, versets 36 et 37. Et encore là, ce ne sont que quelques exemples. Certains, sans parler d'adultère, ont supposé qu'il s'agissait de quelque chose de répugnant lié à la nudité, quelque chose de honteux, rendant la vie conjugale désagréable, mais pas forcément impossible. La loi de Deutéronome 24 ne donne pas les conditions dans lesquelles le divorce est légitime ou non. Elle dit seulement la permanence de la séparation, même dans le cas où le divorce serait illégitime. Dans le code d'Amourabi, on a une loi qui ressemble un tout petit peu au cas présenté dans la Bible. Vous vous souvenez, c'est ce mari qui part. Lorsqu'il revient, alors il a le droit de récupérer sa femme, même si cette femme s'était remariée. Alors là, c'est une loi qui ressemble à celle de la Bible, mais elle aboutit à une autre conclusion. Par contre, celui qui, justement, dédaignait sa ville, quittait sa ville sans avoir en fait été fait captif, alors lui n'avait pas le droit, à son retour, de récupérer sa femme. Et donc là, oui, on a une loi qui ressemble un petit peu à celle de l'Ancien Testament, sauf que c'est lié à la ville qui est dédaignée. Il n'est pas question là d'une chose inconvenante de la part de la femme. Là, on pourrait aussi dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est dans le code d'Amourabi, on a le cas d'un abandon de domicile. En cas d'abandon de domicile, le mari ne peut pas ensuite reprendre sa femme, puisqu'il a quitté son domicile de façon volontaire. C'était un divorce, on pourrait dire, de fait. Dans la plupart des peuples du Proche-Orient ancien, notamment chez les Assyriens, la pratique de reprendre une ancienne femme était acceptée. Là, je vous renvoie aussi vers ce long article 37 qu'on a lu il y a quelques minutes. C'est même une pratique que le Coran admet. Et là, je vous lis juste deux versets de la sourate de la vache, la sourate 2. Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise, conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres d'Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont injustes. S'il divorce avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors tous les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Donc là, dans le Coran, une femme divorcée d'avec son mari pouvait revenir à son premier mari après s'être remariée entre-temps. Si j'anticipe un tout petit peu la partie où nous parlerons du remariage, je dis déjà que d'après Deutéronome 24, versets 1 à 4, le remariage n'est pas une pratique abominable. Ce que le texte appelle pratique abominable ou horreur, en Deutéronome 24, verset 4, c'est le fait de revenir à son premier conjoint après s'être remarié. Parce que la femme répudiée a été rendue impure ou souillée pour son ex-mari, selon les traductions. C'est la restauration du premier mariage qui est une horreur, nous dit le texte. Enfin, on peut dire que dans Deutéronome 24, la femme qui se remarie après avoir été répudiée n'est pas adultère, elle n'est pas qualifiée d'adultère. Elle peut même se remarier en cas de nouvelle répudiation ou de mort de son deuxième conjoint. Elle peut se remarier, mais pas avec son premier mari. C'est cela que la loi dit. Il faudra donc bien comprendre les propos de Jésus aussi dans l'évangile dans ce contexte. Quelques conclusions à présent quant à la question du divorce dans l'Ancien Testament. L'économie mosaïque tolérait le divorce sans toutefois l'encourager. Dieu s'exprime clairement à ce sujet en Malachie 2. Dieu dit « Je hais la répudiation ». Et là, nous avons une différence fondamentale entre la Bible et les autres codes de loi. Le divorce est considéré comme mauvais en ce qu'il n'entre pas dans le plan que Dieu aurait voulu. Le divorce, au moins en général. Le divorce n'est pas seulement un échec humain ayant des répercussions sociales regrettables. Le divorce est aussi quelque chose qui n'entre pas dans le plan, le bon plan que Dieu a pour l'humanité. Dans tous les cas, que le divorce soit légitime ou non, Dieu le reconnaît comme la dissolution du mariage et la loi qu'il a donnée à son peuple tente d'en limiter les dégâts. Un certain Schneider a écrit que Dieu fait en quelque sorte un compromis avec la méchanceté du cœur humain, car si la soupape du divorce n'était pas donnée, les êtres humains feraient du mariage un enfer. Enfin, je crois qu'on peut également dire, d'après les données de l'Ancien Testament, que bien que Dieu haïsse le divorce dans le sens que je viens de dire, tout divorce n'est pas pour autant un péché, c'est-à-dire une faute morale vis-à-vis de Dieu. Et même dans le cas où le divorce serait un péché, un divorce pour une raison illégitime aux yeux de Dieu, il n'en reste pas moins un vrai divorce, un divorce pécheur, mais un divorce quand même. Selon moi, la chose inconvenante de Deutéronome 24, verset 1, n'est sans doute pas une raison valable de divorcer aux yeux de Dieu. À l'époque, en raison du peu de valeur accordée aux femmes, la plupart des divorces étaient abusifs, illégitimes. Mis à part les cas d'adultère, rarissimes, voire inexistants, devaient être les cas où le mari répudiait sa femme pour une raison qu'on pourrait qualifier de valable. Par exemple, si une femme était violente avec son mari, cela devait être rarissime, voire inexistant. Donc si, avec la plupart des commentateurs, on admet que la chose inconvenante n'est pas l'adultère, le cas de divorce exposé en Deutéronome 24 est un cas de divorce illégitime. Un divorce illégitime, mais un divorce quand même. Un divorce qui fait que le mari n'a plus de droit sur son ex-femme. Un divorce qui fait que la femme est libre de se remarier, l'alliance de son premier mariage ayant été rompue. Pour aller plus loin, notamment pour aborder la question de la légitimité ou non d'un divorce, il nous faut aller dans le corpus néo-testamentaire, à la fois dans l'enseignement de Jésus et celui de Paul. Et c'est avec grand plaisir que je cède la parole à mes collègues pour ces parties-là dans le Nouveau Testament. Bonne écoute à chacun, donc dans d'autres fichiers audio. À bientôt.